Merci aux gens qui se sont intéressés à cette présentation du livre de Lucie Vincent, « Faites danser votre cerveau ». Déjà, le titre, ça nous interroge, ça nous donne envie d'aller au-delà, surtout quand on est danseur amateur, quand on pratique la danse ou quand on hésite encore si on se lance ou pas. Je vais commencer avec quelques phrases que j'ai trouvées dans votre livre, que je trouvais fort intéressantes, qui ne sont pas de vous, que vous les avez mis. Et j'étais très étonnée de voir voilà, jusqu'à quel point, pour certaines personnes, la danse peut être si importante. Tout être humain porte en lui un danseur. Oui. Celui qui ne danse pas est coupé de la réalité.
Oui.
Fais attention à ce que tu danses, car ce que tu danses, tu le deviens.
En effet.
Nous devrions considérer comme perdu chaque jour dans lequel nous n'avons pas dansé au moins une fois.
Chaque heure.
Chaque heure. Quand tu danses, tu peux t'offrir le luxe d'être toi. Ça, c'est celle que je préfère.
Oui.
Alors, pourquoi vous êtes intéressée à la danse en tant que neurobiologiste? Est-ce que c'est en pratiquant la danse que vous avez remarqué des changements qui vous ont amené à faire des recherches? Ou est-ce que vous avez commencé à danser suite à vos recherches sur l'impact de cette activité sur le cerveau?
J'ai commencé la danse assez tard, en fait. En même temps, j'ai toujours dansé. Parce que quand j'étais jeune, à l'école, on dansait. On nous donnait des cours où on faisait des danses folkloriques. Ce qui est peut-être vrai pour certains d'entre vous. D'ailleurs, est-ce qu'il y a beaucoup de danseurs dans la salle? Qui danse ici? Oui? Super. Bon. Enfin, d'une manière ou d'une autre, que vous avez dansé. Enfin, super. Je ne savais pas particulièrement bien danser, mais des danses folkloriques, j'ai fait un peu de modern jazz, comme toute fille. Mm-hmm. Et puis, je suis arrivée à un moment dans ma carrière professionnelle de très grand stress, où j'étais très surmenée, et je cherchais une activité pour me détendre un peu, pour faire penser à autre chose. Et je passais tous les jours devant l'école Georges et Rosie, rue de Varennes, à Paris, qui a été créée en 1935. Par Georges et Rosie, qui pareil, qui envoie la salle dans des films, parce qu'il y a des
Tout
films qui
fait.
Ont été tournés, et puis beaucoup de vedettes qui viennent encore aujourd'hui apprendre à faire quelques pas de valse pour un film ou autre. Et ça me paraissait être un lieu un peu mythique, et je n'osais pas trop y aller, en fait. Et un jour, j'ai appelé, et j'ai dit, voilà... Bon, j'ai dit, je sais danser un peu, parce que je me suis dit, ils savent que je ne sais rien faire du tout. Ils vont me dire que ce n'est pas la peine de venir. Mais au contraire, bien sûr, c'est une école de danse. Ils
bien
ont
sûr.
Besoin de faire de l'argent. Hein. Il suffit de faire un chèque et n'importe qui peut y aller. Alors, j'ai commencé à faire de la danse de salon, qui était un monde inconnu pour moi. C'était... très particulier. Ceux qui connaissent la danse de salon savent que c'est très varié. Il y a 10 danses, 5 danses standards comme la valse, le slow fox, le quick step et 5 danses latines comme la rumba, le cha-cha-cha, le jive. Et donc j'ai découvert tout ça. Et je dois dire que quand j'ai vu au début le prof de danse faire un pas de rumba, je me suis dit jamais de la vie. Est-ce que j'arriverai à faire ça avec les hanches, avec le corps, avec cette lascivité du mouvement? C'est impossible. Mm-hmm. Mais bon, la valse, peut-être que je vais y arriver, après tout. Et donc, j'ai commencé et je suis devenue très, très rapidement addicte de la danse. Et ça, c'était le premier effet. Une addiction est réelle et chaque jour où on n'a pas dansé, c'est une journée perdue. C'est même pas la peine d'y penser. Mm-hmm. Les gens me disaient... Oui, tu fais combien de danse en fait? Deux heures par semaine, trois heures par semaine? J'ai trois heures par jour. C'est devenu quelque chose de très important. Alors, du coup, comme je suis devenue addict et assidue et j'en faisais beaucoup, ben, j'ai perdu peut-être 4 kilos, mais sans m'en rendre compte. C'était juste comme ça. Et puis, je suis devenue beaucoup plus dynamique, plus gaie. J'ai gagné beaucoup en confiance et c'était totalement différent comme façon d'être. Alors du coup, je me suis dit, c'est bizarre, il doit se passer des choses dans le cerveau quand on danse. Mm-hmm. Et vous savez peut-être ou peut-être pas, mais j'ai écrit beaucoup de livres sur la neurobiologie de mm-hmm. l'amour. Hein, donc j'ai une grande habitude d'éplucher la littérature scientifique quand je m'intéresse à quelque chose. Et alors là, du coup, j'ai cherché les effets de la danse sur le cerveau. Alors, je dois dire que si on cherche avec les mots-clés dans ce cerveau, bon, on trouve quelques papiers, mais pas tant que ça, en fait. Et il fallait aller le chercher par des moyens un peu déviés, de regarder les effets de l'activité physique, bien sûr, mais surtout des mouvements complexes. Et ça m'a entraînée dans toute une voie de recherche qui est en fait très récente. Il s'est passé la même chose qui s'est passée quand j'ai écrit sur l'amour. C'était drôle parce que là aussi, c'était une sorte de défi qu'on m'a lancé d'écrire sur l'amour. J'ai regardé la littérature, j'ai trouvé des résultats incroyables qui m'ont fait dire, ah ben, il faut que le monde le sache, c'est énorme. Et donc, j'ai écrit toute une série de livres. Mais là, sur la danse, c'est pareil. Je suis tombée sur des papiers, mais très récents. D'ailleurs, j'ai une amie neurologue à Paris et on va au concert quelquefois ensemble. Et elle me dit, ah, je pars aux États-Unis demain, je vais voir Jeremy Schmammann. Je lui dis, mais c'est incroyable ce qu'il a fait sur le cervelet et les effets du mouvement complexe. Et elle-même, elle n'était pas au courant. Tellement, d'accord. C'est quelque chose qui est en train d'émerger. Et donc, ces effets, on en parlera peut-être tout à l'heure.
Oui.
Je me suis dit, là encore, c'est tellement énorme que si le monde savait à quel point il est essentiel de tous les jours apprendre un pas de danse.
Oui.
Et donc, j'ai écrit le livre.
Alors, moi, je me suis posé la question, parce que l'homme danse depuis toujours. La danse, elle a toujours appartenu à la culture, à l'art. On peut dire qu'aujourd'hui, elle appartient à la science aussi, parce que, qu'est-ce qui fait qu'on a mis autant de temps à s'intéresser à cette activité, puisqu'on danse depuis toujours? Ça nous a toujours fait du bien. Pourquoi on ne s'est pas posé des questions avant?
C'est une excellente question, et c'est quelque chose qui me met presque en colère. Pas tellement qu'on ne parle pas de la danse, mais ce qui est vraiment dommage, c'est toute notre historique dualiste. Mm-hmm. C'est-à-dire, on pense que le corps est une sorte de machine, un petit peu honteuse, hein, souvent, qui est là pour nourrir le cerveau, qui est magnifique, et qui est là pour faire le travail noble. Mm-hmm. Et à cause de ça, l'activité physique est traitée, mais partout, et encore aujourd'hui dans la littérature scientifique, comme si le corps était une sorte de machine, et on parle en termes de consommation d'oxygène, le volume maximal d'oxygène dans les poumons, le nombre de calories qu'on brûle, le taux de battement cardiaque. C'est ce corps-machine qui est toujours mis en avant. Encore aujourd'hui, c'est une lutte qui commence de dire que en fait on n'a pas de cerveau sans corps et on n'a pas de corps sans cerveau et les deux fonctionnent en une seule unité et c'est un point sur lequel on reviendra beaucoup plus en profondeur. Mais je pense que toute notre historique nous a entraînés dans une façon de considérer le corps et le cerveau et qui nous fait ignorer une activité qui relie les deux, aussi bien que la danse. Mais il est vrai que les chercheurs disent que dans toute société humaine qui a existé et qui existe encore aujourd'hui, l'homme a dansé et l'homme danse. C'est une activité, on peut considérer, peut-être que c'est une activité physiologique. C'est pas quelque chose qu'ils font dans tel endroit pour telle raison. C'est une activité qu'on fait dans tous les endroits, par tout le monde, pour diverses raisons. Les animaux aussi dansent. Et pas juste quelquefois, ce n'est pas anecdotique, c'est une fonction qui existe dans énormément de vie animale. Mm-hmm. On voit des danses et on les voit pour des raisons de frime. On montre ses capacités physiques ou alors de séduction pour séduire l'autre.
D'ailleurs, un enfant, quand on lui fait écouter de la musique, naturellement, il a ce besoin de faire bouger son corps par rapport à la musique. Et c'est une manière aussi d'exprimer des émotions, la danse.
Alors là, tout de suite, vous m'obligez à parler du lien très fort entre les émotions, les réseaux cognitifs, mm-hmm. tout ce qui est intellectuel, et puis le système moteur, le corps. Et en fait, je ne peux pas parler pendant une heure de l'importance de bouger sans bouger. Je me trouve pas très bien. Vous m'entendez aussi bien comme ça? Oui, super, OK. Ce fameux Jeremy Schmarman, dont j'ai parlé tout à l'heure, il travaille sur le cervelet, qui est une partie du cerveau derrière, comme une sorte de petit chignon. Et donc, en tant que neurologue, il traite souvent des patients qui ont des lésions du cervelet. Alors, nous savons depuis très, très longtemps que le cervelet est essentiel pour le mouvement. C'est lui qui contrôle tous nos mouvements fins. Donc, si je veux mais n'importe quoi, faire un mouvement avec mon bras, le fait que je puisse faire comme ça et que ça ne fasse pas ça ou ça, c'est le cervelet qui le contrôle. Par ailleurs, quand j'apprends un mouvement complexe, un mouvement coordonné, c'est le cervelet qui fait tout un travail de programmation pour que le mouvement devienne automatique. Je pense que beaucoup d'entre vous avez appris à conduire, par exemple. Alors, vous vous rappelez au début combien c'est la panique quand mm-hmm. on doit surveiller la route, passer la vitesse, tourner le volant, regarder dans le rétroviseur et quelquefois parler à celui qui est à côté. Et on a tous ces mouvements à faire et on ne sait pas où donner la tête. En revanche, quand on a fait plusieurs fois que le cervelet a appris qu'il faut toujours faire certaines choses en même temps, c'est-à-dire quand je passe la vitesse, je regarde dans le rétroviseur, avant de tourner le volant, je regarde dans le rétroviseur, on n'a plus besoin d'y penser au bout d'un moment. Ces mouvements deviennent un mouvement, c'est-à-dire que tout est automatisé. Et ça, c'est grâce au cervelet, parce qu'il crée de nouveaux réseaux. Alors, très bien, ça, on le savait depuis longtemps. Ce n'est pas ça qui est nouveau. Mais Jeremy Schmarman, il avait certains malades qui avaient une lésion du cervelet. Et en plus d'avoir des problèmes de coordination motrice, ils avaient des problèmes émotionnels. Bon, on pourrait dire, oui, mais quand on est malade, c'est normal qu'on soit déprimé. Mais ils avaient aussi quelquefois des problèmes cognitifs. Ils ne pouvaient pas aligner des pensées logiques les unes après les autres. Ils ne pouvaient pas réfléchir sur une question. Donc, il s'est dit, c'est quand même curieux que tous ces systèmes cognitifs et les systèmes émotionnels soient touchés par une lésion qui est purement cérébelleuse. Alors, du coup, il a commencé à regarder un petit peu les liens entre le cervelet et le reste du cerveau. Et grâce à des techniques très, très modernes qui permettent de sauter des synapses dans le cerveau et de revenir en arrière et de voir à plusieurs étapes où vont les liens, il s'est rendu compte qu'il y avait des réseaux entre le cervelet, les systèmes émotionnels et les systèmes cognitifs, de manière que tout marche ensemble, qu'il n'y ait pas une chose qui dirige l'autre, mais tout est ensemble. Ce qui va de pair avec les écrits de Darwin, il y a très très longtemps, quand il a écrit ses livres, il disait à quel point l'expression, que ce soit l'expression du visage ou l'expression du corps, est universel. Parce que...
Vous l'expliquez très bien dans votre livre.
Parce qu'on pourrait imaginer que ça soit culturel, que chez nous, quand on a peur, on fait... Mais dans d'autres cultures, on fait... Mais non, c'est universel. Et on montre à des personnes dans le monde entier, de toutes les cultures, les dessins de corps avec une certaine posture... Là, je n'ai pas peur. Vous êtes d'accord? Vous reconnaissez tout de suite. Et tout le monde reconnaît les émotions. Et donc, il dit, et c'est ça qui est nouveau et qui commence à sortir, c'est le fait que l'ensemble du corps, c'est-à-dire on arrête le dualisme, quand on a peur, on a immédiatement une ambiance hormonale associée avec une augmentation des corticostéroïdes. On a une posture corporelle aussi associée. Et on a le vécu émotionnel associé, ce qui est normal parce que à quoi ça servirait d'avoir peur et puis de réfléchir sur ben, qu'est-ce que je vais faire maintenant? C'est normal qu'on ait les réactions qui vont ensemble. Mais on va plus loin que ça. Enfin, il y a aussi un... On en parlera peut-être après sur le côté intellectuel. Mais si on dit que quand on a une réaction, on adopte une position, on a le vécu intérieur qui va avec, est-ce que ça veut dire que si j'adopte cette position, je vais me sentir intérieurement fier, capable et confiant? Donc, il y a d'autres personnes qui ont fait des recherches là-dessus, et effectivement, c'est le cas.
D'accord. Est-ce que c'est en rapport à... parce que je trouvais très intéressant le tableau sur les danses. Je crois que c'est la page 154, si ma mémoire est bonne. Oui, voilà. Alors, pour revenir à la séduction, les 10 danses de salon qui sont connues et étudiées aujourd'hui ont chacune leur personnalité.
Oui.
Si on les considère ensemble, on voit qu'elles permettent de travailler la palette complète des comportements de séduction. Donc, pour la rumba, c'est la sensualité. Le cha-cha-cha, c'est la séduction et l'aventure. El paso doble, fierté, mise en garde, dispute. Jive, la joie. Samba, jubilation, fête. Valse lente, romantisme. Valse rapide, exaltation, ivresse. Tango, confrontation. Quick step, insouciance, légèreté. Slow fox, élégance.
Ouais.
Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut remarquer chez tout le monde, ça?
Quand ils dansent?
Oui.
Mais justement, ça fait partie du travail de la danse. Parce que je sors d'un cours d'hier soir où... à Paris, où effectivement, on a beaucoup d'élèves adultes qui viennent apprendre à danser. Et ils, en fait, ils viennent pour draguer. Il ne faut pas se faire d'illusions.
Il y a beaucoup de drague dans la danse, effectivement, dans la danse de couple.
Oui, ouais, c'est fait pour ça. Mais ils ne se rendent pas compte qu'il y a un prix à payer, hein, qu'il faut quand même apprendre à danser. Et donc, souvent, on a affaire à des réfractaires. Et hier soir, on avait un cours de paso doble. Et toutes ces postures de la danse, effectivement, on peut, si je prends la position de la danse, un danseur doit pouvoir me dire quelle danse je vais danser, même avant d'avoir fait le premier pas.
C'est l'attitude
c'est
qui
l'attitude.
Va... Voilà, c'est ça.
Oui. Et ça, c'est vrai. Pour chaque danse, je pense que... Et s'il y en a parmi vous qui regardez Danse avec les stars, qui sont devenus experts en danse, vous pourrez me dire, voilà, ça, c'est une position... Là, ben, c'est très caractéristique, chaque danse.
Donc, l'attitude conditionne notre personnalité,
oui.
Notre cerveau directement.
Oui. Absolument. Chaque danse est prévue pour raconter une histoire d'une certaine façon. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on raconte l'histoire à soi-même, évidemment, mais on le raconte aussi à la personne en face. Donc, on crée une autre façon d'échanger avec la personne avec qui on danse, même si on danse avec lui ou elle pour juste 2-3 minutes, parce qu'on tourne dans le cours de danse. Mais ça crée une autre façon d'être en société.
Oui. Alors, on pourrait peut-être parler des neurones miroirs par rapport à ça?
Ah, oui. Oui, ça fait partie... Parce que, bon, ça rentre dans tout un discours sur pourquoi est-ce qu'on aime autant danser. Parce que de toutes les activités physiques qu'on peut adopter, je crois que la danse est la seule où on ne dit pas faut que j'aille faire ma danse ce soir. C'est antinomique.
C'est vrai.
On dit, oh, faut que j'aille à la salle de gym. Oh, non, j'ai pas envie. Mm-hmm. Mais la danse, non, on y va parce que ça nous amuse. Mais pourquoi est-ce qu'on aime autant danser? Et en fait, quand on regarde la danse, il y a beaucoup d'éléments là-dedans qui font que c'est une activité pas comme les autres. Pour aller très vite, parce qu'on y reviendra peut-être, mais je crois que le fait de danser sur un rythme, ça, c'est essentiel. Ça, mm-hmm. ça fait énormément de choses mm-hmm. dans le cerveau, mm-hmm. c'est très complexe. Mais une autre chose, c'est les neurones miroirs. Parce que souvent, quand on est dans une salle de danse, on est en train de, au moins, adopter la même attitude, même si ce n'est pas exactement les mêmes mouvements en même temps. Parce que si on est dans un bal, on met une valse, tout le monde valse, mm-hmm. autour de la salle. Alors, c'est très intéressant cette situation, parce que il y a peu de fois dans la vie de tous les jours où on est dans une assemblée et tout le monde est en train d'avoir la même attitude mm-hmm. corporelle. Mm-hmm. Il faut savoir que l'autre en général peut être une immense alliée pour nous, ou il peut être un immense danger. Et il faut bien reconnaître que quand on est dans la vie en général, que ce soit au bureau, dans les magasins, en train de manger au restaurant, on a beaucoup de comportements qu'on adopte justement pour minimiser les risques de l'autre. On ne se met pas avec le dos à la porte de préférence. Quand on va dans un endroit où on est déjà allé une fois, on a ce qu'on appelle un comportement de préférence de place, parce mm-hmm. qu'on va toujours prendre la même place. D'ailleurs, vous êtes probablement ici ce soir dans le même niveau du rang où vous allez d'habitude quand vous assistez à une conférence, parce que vous êtes déjà allé une fois et qu'il ne vous est rien arrivé de très méchant, alors vous vous dites maintenant, oui, ça c'est bon, je sais que ça c'est bien. Alors, on a cette espèce de veille d'attention subconsciente qu'on porte en permanence aux autres autour de nous pour assurer notre bien-être, notre survie, et puis assurer qu'ils ne vont pas piquer ce qu'on a à manger ou à boire, etc. Et les neurones miroirs sont prévus dans le cerveau pour nous aider à ça. Les neurones miroirs sont des neurones qui déchargent quand l'autre fait une action, comme si nous-mêmes on faisait l'action. Et c'est très drôle parce qu'on les a découverts, encore une fois, par hasard. C'était un chercheur qui travaillait sur l'activité électrique de neurones prémoteurs chez le singe. Et il le faisait attraper un gobelet. Alors, en général, en électrophysiologie, souvent, on branche l'activité électrique des neurones sur un haut-parleur pour que, quand ça bouge, on le voit sur l'oscilloscope, mais aussi on l'entend, ça fait clic, 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 clic quand le neurone s'active. Et le chercheur, il a décidé de prendre une pause, donc il laisse le singe de côté, mais il attrape le gobelet lui-même. Alors, les neurones miroirs du singe qui le voient attraper le gobelet, ont déchargé comme si le singe lui-même avait attrapé le gobelet. Et donc, on s'est rendu compte qu'il y avait ce vécu intérieur des autres. Alors, quand on sait que tout marche ensemble, intellect, émotion, activité moteur, on crée une même ambiance hormonale, ça veut dire que si je vois l'autre personne faire une action, et que je décharge mes neurones moteurs comme si je faisais l'action moi-même, je crée aussi une ambiance intérieure comme si j'étais l'autre personne. Alors, évidemment, ça nous fait penser à l'empathie, et il y a eu beaucoup de publicité autour de ces découvertes et le fait que ça expliquait l'empathie chez l'humain. Mais l'empathie, c'est très bien, mais quand on est en train de danser, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on voit tous les autres avec la même attitude que nous. Donc, c'est une situation rare où on est rassuré que pendant 2 minutes au moins, personne ne va sortir un couteau dans notre dos ou dire du mal de nous à quelqu'un d'autre, pour parler en termes un peu plus modernes. Et donc, c'est très, très rassurant de se trouver en activité coordonnée avec un groupe de personnes. Et c'est ça l'intérêt, je pense, c'est pour ça que j'ai parlé des neurones miroirs dans le livre.
D'accord. Alors, ce qui est super aussi dans votre livre, c'est que vous nous apprenez à danser. Parce qu'il y avait des petits dessins avec les pieds. Attendez, je vais chercher, voilà, par exemple. Donc, vous nous expliquez, pour qu'on puisse déjà se mettre un petit peu, pour comprendre peut-être un peu mieux ce que vous nous dites, et puis nous donner vraiment envie d'aller pratiquer telle ou telle autre danse.
C'est-à-dire, ce n'est pas idéal d'apprendre à danser avec des billets sur un... C'est à la demande de mon éditrice qui voulait absolument
J'imaginais,
des
oui.
travaux pratiques.
Oui. Mais ça peut mettre l'eau à la bouche, et comme on dit.
J'ai créé un site internet. À la suite de tout ça, je me suis... Et puis maintenant, je donne des cours de danse chez Georges et Rosie. Et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'adultes qui viennent et qui ont envie d'apprendre à danser, mais qui n'ont jamais dansé de leur vie, mais pas un pas. C'est assez étonnant. Ça fait partie de ce système dualiste qui est en place, qui fait qu'on apprend à marcher et puis on pense que c'est bon, c'est tout ce qu'on a à faire et le reste, bon, après, c'est juste le cerveau qu'il faut nourrir. Et donc, certaines personnes ont beaucoup de mal à faire des déplacements de poids, tout simplement. Si on demande à des personnes de faire un pas de samba en cours, de faire 1, 2, 3, 4, eh bien, ils ont beaucoup de mal. Ce n'est pas un pas de marche, alors c'est où ? Le cervelet, il ne sait plus où il habite. Et il faut tout prendre très doucement et faire non, en avant, en arrière. Faites juste avant, arrière. Et rien que ça, quelquefois, c'est un travail une petite heure. Alors, j'ai créé un site internet qui s'appelle clickanddance.com qui est gratuit, que tout le monde peut accéder pour apprendre un petit peu à faire des déplacements de poids de corps et de changement de direction pour être plus à l'aise quand on veut apprendre à danser. Alors, ça, c'est une grande question, le sens du rythme. Oui, alors, les Africains, comme vous dites, vont souvent, ils vivent dans des communautés où le rythme fait partie de leur vie habituelle, qu'ils entendent souvent le rythme. Nous, on entend de la musique, il y en a beaucoup qui écoutent la musique, mais ce n'est pas pour autant qu'on bouge dessus. Alors, quand vous arrivez dans un cours de danse et on vous dit, il faut faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais les gens sont totalement perdus. Je ne l'entends pas, mais c'est quoi? Et ils font 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais à côté. Et
à côté.
Dit, non, danser sur le rythme. Mais ils ne l'entendent pas. Mais ils entendent un rythme. Ça, ils ne sont peut-être pas sur la musique, mais ils entendent un rythme. Et quand je leur dis, bon, on arrête les pas, oubliez les pas, on va marcher sur le rythme. Et on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, tout le monde y arrive, tout le monde. Donc, ces histoires de rythme et que nous, on ne l'a pas, moi, je pense qu'on l'a. Mais il faut un petit entraînement pour bouger son corps sur le rythme, pour beaucoup de gens, oui.
Donc, selon vous, on peut se mettre... très tard à la danse.
Alors, tout le monde peut se mettre à la danse à n'importe quel moment. Tout le monde n'a pas le même niveau en se mettant à la danse. Il y a des gens qui... mais moi-même, je n'avais pas fait de danse. Mais quand j'étais à l'école, on faisait les danses folkloriques. Je n'avais aucune difficulté à bouger sur le rythme. Et ça m'est venu très rapidement. D'autres personnes, je vois au cours de danse qui sont là depuis avant moi, qui ont progressé un petit peu. Mais tout le monde progresse. Mais c'est une question de volonté de travail. Si on a envie de progresser et qu'on y va une fois par jour, deux fois par jour, on progresse beaucoup aussi. Parce que ce qui est important de dire, c'est que apprendre à danser, c'est créer de nouveaux réseaux dans le cervelet. C'est un travail physique. C'est pas mental, comme on le sous-entend beaucoup souvent. C'est physique. C'est-à-dire, il faut que le corps fasse le mouvement. Il faut qu'il le fasse plusieurs fois avec, avec la musique et en faisant les mouvements coordonnés pour que le cervelet commence à créer les réseaux pour mm-hmm. automatiser mm-hmm. ces mouvements isolés et les mettre ensemble. Et ça ne se fait pas en 10 minutes, mm-hmm. même parce que les polytechniciens, on a beaucoup de polytechniciens à Paris qui viennent et qui disent « Non, non, mais c'est bon, j'ai compris. Non, c'est, non j'ai compris. Ben, faites.
Ah, bon. » Alors justement, qu'est-ce qui fait qu'il y a la compréhension du mouvement ouais. et l'incapacité de le reproduire? Pourquoi il y a des personnes qui font immédiatement le lien entre ceux qui comprennent et ceux qui arrivent à faire, et d'autres qui vont mettre un petit peu plus de temps.
Mais c'est une question de qu'est-ce que vous avez déjà comme réseau dans votre cervelet.
Voilà.
Est-ce que vous avez déjà une bonne constitution de réseau qui vous permette de construire sur quelque chose qui est déjà mm-hmm. là. Si vous ne savez pas marcher, eh bien, vous allez mettre beaucoup plus de temps à apprendre un pas de samba, parce mm-hmm. qu'il va falloir d'abord vous mettre debout, trouver votre équilibre, mettre un pas devant, retrouver l'équilibre. Si vous avez déjà appris à marcher, vous pouvez faire la suite, mm-hmm. et ainsi de suite. Et chaque couche supplémentaire vient se construire sur ce qui est déjà
là. Ce qui explique que les cultures, les peuples qui dansent depuis l'enfance...
Eh bien, ils dansent toutes les danses beaucoup plus facilement.
Voilà.
Mm-hmm. Quand on a appris une danse, c'est comme une langue.
Comme
on
une
apprend
langue.
D'autres mm-hmm. danses beaucoup plus mm-hmm. facilement.
Oui. Tout à fait, tout à fait. Alors, vous dites, dans un avenir proche, il serait impensable de rester assis pendant des heures quand on aura trop de connaissances sur les déficits des cytokines, hormones, enzymes et neurotransmetteurs induits par l'immobilité, et on pourra prescrire telle ou telle posture ou enchaînement de mouvements pour stimuler nos organes.
Oui. Oui, alors, je suis obligée de me lever pour parler de ça, sinon ce serait hypocrite. Ça, c'est la deuxième grande découverte scientifique que j'ai eu envie de partager quand j'ai fait les recherches en littérature scientifique. C'est les myokines. Ça, c'est aussi quelque chose qui est connu que depuis une vingtaine d'années. Vous savez que vous connaissez tous les hormones qui sont libérées par une glande endocrine et qui ont un effet ailleurs dans le corps. Par exemple, l'insuline qui est libérée par le pancréas et qui agit dans les muscles et mm-hmm. le foie pour faire absorber le sucre. Bon, la notion d'hormone, donc... on l'a connue qu'en 1929. Hein, il ne faut jamais oublier combien on connaît peu le fonctionnement de notre corps et de notre cerveau. On est vraiment en train de se rendre compte de comment ça marche. Et donc, on pensait qu'il y avait des glandes qui sécrétaient leurs hormones et puis qu'ils agissaient très bien. Et puis voilà, tout d'un coup, on découvre qu'en fait, la plus grande glande endocrine du corps, eh bien, ce serait les muscles. Ben, c'est quand même sidérant. On croyait que les muscles, c'était là pour bouger, que c'est un peu une mécanique, hop, là, on bouge, et puis les muscles, ils ont fait leur travail, et ensuite, on s'assoit et puis on réfléchit, voilà. Mais en fait, il s'avère qu'il y a plus de 600 substances, qu'on appelle des myokines, donc, qui sont libérées par les muscles quand on bouge. Mais qu'est-ce qu'ils font, tous ces myokines? Mais on est en train un petit peu de se rendre compte. Tout ce qu'on regarde, on trouve qu'ils font quelque chose. Donc, c'est énorme. Et en particulier, ils agissent sur le système immunitaire, mais sur les os, sur le système digestif, sur le cœur et sur le cerveau. Donc, chaque fois qu'on bouge, on est en train d'entretenir toutes les fonctions corporelles. Alors, très bien, mais ça veut dire que quand on ne bouge pas, quand on reste assis, qu'est-ce qui se passe? Mais on n'est pas en train d'entretenir les fonctions corporelles. Mmh. Et on s'étonne que depuis une vingtaine d'années, il y a une épidémie massive de ce qu'on appelle les maladies chroniques liées à la sédentarité, qui sont, par exemple... le syndrome métabolique, les maladies cardiovasculaires, mais aussi certains cancers, les maladies psychiques comme la dépression, mm-hmm. parce qu'on prive le corps de toutes ces myokines.
Alors, en Angleterre, où on est toujours à l'affût d'économies d'argent, on a fait une immense étude pour faire une prescription aux gens minimale pour éviter de vous priver de myokine. Et on dit que toutes les heures, il faut se lever et bouger pendant 1 à 2 minutes. Alors, pourquoi est-ce qu'on danserait plutôt que de juste aller chercher un café? Eh bien, parce que quand on danse, eh bien, on bouge beaucoup plus de muscles que quand on marche. On implique tout le corps en faisant des pas de danse. Alors, plus de muscles, plus de myokine. Mm-hmm. Voilà.
Alors, moi, quand j'ai lu ça, je me suis posé la question suivante, parce que dans la médecine chinoise ou dans le yoga, tout ça, je pense qu'on le savait. Peut-être on n'avait pas la réponse précise du pourquoi, mais on sait très bien que les personnes qui pratiquent du yoga, ils se sentent très, très bien. Dans la médecine chinoise, tout ce qui est le travail de mouvement, le tai chi, voilà, ça veut dire qu'il y a d'autres cultures, si je peux dire, que avaient compris tout ça, qui ne l'ont peut-être pas écrit dans des livres savants, mais qu'ils savaient que tout ça, ça faisait du bien au corps.
Je pense que toutes les cultures n'ont pas la même historique dualiste que la nôtre.
Voilà.
Et qui réfléchissent autrement sur le fonctionnement du corps et du cerveau. Et qui ont effectivement découvert depuis très longtemps qu'on est obligé de bouger au cours de la journée. Et d'ailleurs, quand on pense à notre évolution, l'évolution de l'homme, on a un corps qui est fait pour bouger. Notre corps n'est pas fait pour rester immobile toute la journée. Donc, quand on dit qu'il faut faire un minimum d'une demi-heure d'activité physique par jour, c'est risible. On devrait dire, bon, vous pouvez rester assis une demi-heure par jour, mais pas plus.
Alors, vous dites que la danse est incontestablement plus efficace qu'une activité physique répétitive pour qui veut récupérer et protéger ses fonctions cognitives, par exemple pendant le vieillissement. La danse fournit un bon moyen pour aider le corps à parler au cerveau.
Oui, alors, deux choses. Le vieillissement, on vieillit, c'est sûr. C'est normal, on va vieillir, hein. Mais on n'est pas obligé de vieillir comme
de
ça.
Mal vieillir.
Quand on a 50 ans, il n'est pas normal de ne pas pouvoir bouger normalement. Donc, c'est une question d'entretien. Et il y a eu une étude prospective chez des personnes vieillissantes. Donc de 60, je crois que c'était 60 ans ou 65 ans, et on les a suivis pendant 20 ans, en les laissant vivre leur vie normalement, et simplement en leur demandant régulièrement comment est-ce que vous vivez, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous mangez, combien de fois vous sortez, vous vivez avec qui, vous parlez à qui, pour essayer de voir s'il y avait des facteurs de vie qui empêchaient de se dégénérer rapidement. Et on a trouvé que la seule activité physique qui protégeait contre la maladie d'Alzheimer était la danse. L'autre chose que je voulais dire, c'était concernant le rapport entre la danse et et le côté intellectuel. Parce que quand je vous ai parlé tout à l'heure des liens entre le cerveau moteur, le cerveau émotionnel et le cerveau cognitif, je vous ai parlé beaucoup de Jeremy Schmarman. Aujourd'hui, il y a plusieurs équipes dans le monde qui travaillent sur ces questions, parce que vous imaginez le potentiel qu'il y a si nous savons que le mouvement peut aider à développer le côté cognitif et qui peut agir sur le système immunitaire et qui peut nous aider à gérer nos émotions. Le potentiel est énorme. Alors, il y a beaucoup d'équipes qui travaillent là-dessus, et en particulier un Japonais. Et ce Japonais, qui s'appelle Ito, nous parle beaucoup du fait que le cervelet n'est pas là uniquement pour programmer de nouveaux mouvements. Il est la base de programmation Il est la base d'intégration de tout concept nouveau dans le cerveau. Donc, si j'apprends un pas de samba, c'est le cervelet qui s'en occupe. Mais aussi, quand j'apprends à compter, il prend cet exemple dans son papier, il dit quand le petit enfant apprend à compter, il est obligé de prendre une base physique qui fait travailler le système moteur pour créer les réseaux dans le cervelet. Donc, on apprend à compter sur les doigts ou alors sur des billes, sur un abac. C'est physique. Mais le cervelet, avec ses réseaux et ses liens, donc, à notre cerveau humain, intellectuel, intègre la notion de quantité. Il arrive à comprendre ce que ça veut dire, 2 et 3 font 5, sans avoir besoin du support physique. Et une fois que j'ai intégré ce concept numérique, je n'ai plus besoin de mon système moteur, je peux faire tourner tout seul, entre guillemets, la partie intellectuelle pour faire des exponentielles, des logarithmes, etc. Et donc, faire travailler le corps avec le mouvement, ça permet aussi d'envisager un développement intellectuel. Et d'ailleurs, c'est les physiciens et les mathématiciens le plus aujourd'hui qui utilisent le mouvement pour aider les élèves à intégrer des notions physiques et mathématiques assez complexes, en les faisant vivre avec le corps, en faisant travailler le mouvement pour comprendre les choses. Et j'ai une amie qui est prof au collège qui me dit que tous ses cours, elle les fait comme ça. Elle fait vivre le cours physiquement, elle fait lever les élèves et elle raconte l'histoire et elle introduit des mouvements pour les aider à mieux enregistrer les notions qu'ils doivent apprendre.
Ça me fait plaisir de vous entendre dire ça aussi, parce que je n'ai jamais compris pourquoi à l'école on oblige les enfants à rester absolument immobiles pendant l'apprentissage, alors que les enfants, ils ont envie de bouger, parce que ça veut dire qu'ils ont envie d'exprimer physiquement ce qu'ils sont en train d'intégrer au niveau de l'apprentissage.
Oui, mais on pourrait en parler pendant des heures, parce que ça fait partie aussi d'un sujet vraiment important. C'est le fait de... Oui, c'est une étude que j'ai lue récemment qui dit que si on fait lever les élèves une fois par heure et on a créé des vidéos pour les faire danser en suivant la vidéo en salle de classe, je crois que ça dure 5 minutes, eh bien on a montré qu'on améliore les résultats des tests qu'ils ont par la suite par 20%.
Eh bien, c'est pas rien.
Et que ce résultat est plus important chez les garçons que chez les filles. Et ce que je voulais dire surtout, c'est que le fait d'apprendre à marcher chez le petit enfant, parce que les enfants doivent apprendre à marcher, c'est comme nous, on doit apprendre à danser. Les gens disent « Oh, mais moi, je ne sais pas danser ». Mais non, il faut apprendre, c'est comme tout. Et les enfants, ils doivent apprendre à marcher. Et pendant qu'ils apprennent à marcher, il y a un développement intellectuel qui va avec, qui est très important. Mais malheureusement, quand on a appris à marcher, il faudrait continuer. Et pendant la petite enfance, c'est ce qu'ils font. Parce que quand on a des enfants, on passe son temps à leur dire « Oh, mais ne touche pas à ça, mais tiens-toi tranquille, mais arrête !»
Bouge pas.
Mais il ne faut plus jamais dire ça. Maintenant, il faut... Mais quoi, t'es pas dehors en train de casser quelque chose? Et nous, en tant qu'adultes, on a totalement perdu l'habitude de bouger. Quelquefois, quand on va dans des jardins avec nos enfants ou nos petits-enfants, on a même pas le droit d'aller sur les jouets avec eux. C'est interdit, mais c'est un tort. Et nous aussi, on doit réapprendre à bouger et avoir plaisir à explorer notre environnement avec notre corps pour garder une activité intellectuelle.
Merci à vous, Lucie Vincent. Merci.